c'est Mathieu Béliard. Bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est bien sûr, on en a parlé, la météo. La météo, car aujourd'hui, nous allons vivre la journée la plus chaude de la semaine. Et oui, entre la chaleur, entre le Covid, c'est le moment, chers auditeurs, d'acheter en viager. Voilà. Je peux vous dire qu'il y a l'héritage qui va tomber. On va gâter cette année les enfants à Noël, c'est une certitude. Et puis, Europe 1 fait l'événement ce matin avec le comeback. Oui, première interview du retour d'Edouard Philippe. Edouard Philippe sur notre antenne était ce matin. Pour raconter ses souvenirs. C'est un peu inédit, ses souvenirs du service militaire. Peu de sommeil. Il nous a raconté des chefs qui vous crient dessus, des obstacles toute la journée. En gros, c'était comme un Matignon, mais en bien plus cool. Et puis, chers auditeurs, ça bouge à Europe 1, à la rédaction, puisqu'on nous annonce, et c'est une chance pour Europe 1, l'arrivée d'un grand spécialiste, un grand expert à la rédax, c'est la nomination de Xavier Dupont de Ligonnès, chef du service fait divers et société sur Europe 1.
Non, mais arrêtez,
ça, c'est une grande nouvelle.
Mathieu.
Bon recrutement.
Mais arrêtez, Mathieu, allez.
Oui, bon. Vous avez raison. Ce n'est pas encore fait, c'est vrai, c'est pas encore fait. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs.
Oh oui, oh, la charrue avant les bœufs. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où vient l'expression « mettre la charrue avant les bœufs ».
Oula.
Figurez-vous qu'au XIe siècle, Louis XVI voulait organiser le festival des vieilles charrues en Israël. Il voulait mettre les charrues avant les bœufs.
Oh,
et l'expression a glissé
Stéphane.
Progressivement avec
Stéphane.
Le temps et les siècles.
Non, Stéphane, non, mais franchement, qu'est-ce que vous racontez là? Le festival des vieilles charrues, mais enfin, il n'existait pas au XVIIIe siècle.
Alors. Oui, mais alors on s'en fout, je dis ce que je veux, qui va vérifier?
Ça, oui. Merci Stéphane.
Je vous embrasse. Moi, je fais ce que je veux.
Les annonces du Premier ministre pour faire face à la deuxième vague du Covid, pourquoi je dis ça, ont été déçus. On va en parler avec lui. Jean Castex, bonjour.
Bonjour à tous. À Papa Béliard, à Maman Mabrouk, à Papi et Mamie, Papi Cavol, Mamie Julie.
Allez.
Je suis ravi d'être dans vos locales en tant moi-même qu'élu local.
Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas malade, vous. Hein?
Tout à fait. Je suis ravi de vous annoncer que je suis négatif. J'ai raté mon premier test et j'ai raté mon deuxième test. Et pour certains, soyons dans l'autodérision, je suis en train de rater mon passage à Matignon.
Mais vous n'avez pas dit grand-chose vendredi, en fait.
Tout à fait. Je vois que vous m'avez écouté. Je n'ai quasiment rien dit. Mais si, tout de même, accordez-moi que j'ai annoncé les soldes.
Les soldes.
Ah, tout de même, allons. Julie, ouvrez les yeux. J'ai fait 50% sur la quatorzaine qui est passée à 7 jours. Donc je dis à nos concitoyens, profitez-en.
Et vous avez précisé que pour combattre le Covid, vous privilégiez des réponses locales.
Voilà, sachez, Madame Julie, mon cher Monsieur Cabol, que dorénavant, tout viendra du local. Nous remettons les locaux au cœur des décisions. Plus aucune décision ne viendra de la capitale. Je fais confiance au sens de la responsabilité des Françaises et des Français.
Mais ça veut dire quoi, ce que vous racontez?
Ça veut dire, voilà, démerdez-vous tout seul.
Mais les Français ont été déçus par vos annonces, hein. Y a de quoi, franchement.
Écoutez, je ne suis pas aveugle. Ils ont été déçus par ma nomination, ils ont été déçus par mes annonces. J'y vois une forme de cohérence dans mon parcours.
Comme vous dites. Allez, merci Jean Castex. On va revenir sur le retour des Gilets jaunes et sur les manifestations de samedi qui se sont déroulées plutôt dans le calme. On parle d'un premier test réussi. Bonjour Gérald Darmanin.
Oui, salut les biloutes. Oui, j'ai passé mon brevet de ministre à l'intérieur. Hein, j'étais super. J'ai mis des flics partout. Des flics. Et j'ai pas un seul œil crevé. Pas une seule main d'arraché. C'est le président de la République, je crois, qui va être content de cette forme de bilan.
Bah justement, le voilà, le président. Bonjour, monsieur Macron.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Béliard, monsieur Cabrol, madame Julie, et bonjour à vous, monsieur. Docteur, pardon, Jimmy Mohamed, dont j'ai lu d'ailleurs la tribune dans le JDD Et vas-y que j'engueule tout le monde, hein, monsieur Mohamed. Et j'engueule les Français, j'engueule le gouvernement, et la Grande-Bretagne, elle fait mieux que nous, et allons-y. Hein, monsieur Jimmy Mohamed siffle la fin de la récré, c'est en gros titre, hein, nous dit l'article. Il faut... Non, mais monsieur Mohamed, regardez-moi dans les yeux. Il faut me le dire si c'est la place du ministre de la Santé, Olivier Véran, que vous souhaitez.
Hein?
Non. Vous savez, même Julie... Attendez, monsieur Béliard, je ne suis pas innocent. J'ai bien pris Dupont-Moretti et Bachelot.
Ah, oui, ça
je peux vous faire un gouvernement de chroniqueur.
Non, mais laissez-nous, Jimmy Mohamed, hein, vous êtes gentil. Allez, revenons-en aux manifestations des Gilets jaunes. Elles se sont bien passées, finalement.
Ah, vous avez vu, monsieur le Président, même la dame, elle le dit. J'étais super, j'ai fait mieux que Castaner.
Oui, bon, ça c'est... C'est sûr que ce n'est pas un critère. Il y avait 12 Gilets jaunes pour 8000 CRS. On est heureux que ça soit bien passé, OK?
Alors, vendredi, vous avez laissé votre Premier ministre, Jean Castex, s'adresser aux Français. Pourquoi?
Pourquoi? Eh bien, j'ai eu cette réflexion. Je me suis dit, comme il n'y a absolument rien à dire, Jean Castex me semble être la bonne personne pour l'annoncer. Et encore, il a mis un bon 40 minutes hein, au chrono, juste pour dire que la 14e passait à 7 jours. Voilà. Heureusement que je le paye au forfait et pas à l'heure.
Hein, bon, allez, à bientôt, monsieur le Président. Vous avez des soucis, hein, vraiment. Hier, c'était le classico PSG-OM qui s'est soldé par une victoire de l'OM sur le PSG. Un match marqué par de nombreux cartons jaunes, cartons rouges aussi, et une bagarre générale. On va recevoir Anne Hidalgo.
Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis aujourd'hui, vous l'aurez compris, dans l'apaisement. Et je tiens donc à féliciter les Marseillais et à travers eux la maire de Marseille pour leur victoire hier soir, car je suis fair play. Même si nous n'avions pas Monsieur Mbappé sur le terrain.
Alors on va recevoir aussi celui qui représente le mieux Marseille, Jean-Claude Godin.
Voilà, ce sera moi qui parlerai de Marseille. Voilà. Enfin, tant que l'imitateur officiel de votre radio n'aura pas travaillé la voix de la nouvelle maire de Marseille, Michel Rubirola, qui entre nous, dont tout le monde se fout par ailleurs. Voilà. Il faut avouer ses faiblesses. Je tenais à dire, pas trop souvent quand même, je tenais à dire que j'adore Paris. Alors, ouvrons les yeux, c'est quand même la capitale de notre beau pays et vous avez même le beau temps en ce moment, on se croirait à Marseille. Et merci en tout cas pour vos compliments, pour notre écrasante victoire hier soir sur le score fleuve de 1-0.
Écrasante victoire, oui. Alors, cette rivalité entre Paris et Marseille, elle existe entre les supporters radicaux, mais pas entre vous deux, là, bien entendu.
Mais non, bien sûr que non, peu cher.
Mais bien sûr que non, enfin, il n'y a pas de rivalité à avoir contre une équipe, de toute façon, que l'on rouste 20 fois d'affilée, qui a juste eu hier soir, un gros coup de cul. Oui, je vous taquine, mon cher Jean-Claude, je vous asticote.
Oui, écoutez, madame Hidalgo, ça c'est sûr que quand on a le PIB des États-Unis d'Amérique pour acheter des joueurs, c'est plus facile. Hein. Vous me rappelez, chère Anne, le score de la finale, vous avez paumé, je crois. Donc, vive le Bayern et allez l'OM à jamais, qui resteront les premiers, parce que nous, madame, nous avons été sacrés champions d'Europe.
Ah ben c'est sûr que quand on achète et le match et les arbitres, c'est beaucoup plus simple de gagner.
Non mais dis donc, monsieur Bédard, madame Julie, je vous prends témoin. Dis donc, elle va se calmer, la Bernardino en jupe, là, hein, ou je lui fais bouffer son Vélib tout entier.
Attention, ne vous énervez pas, mon cher Jean-Claude.
Je fais ce que je veux.
Quand même que vous avez bientôt 134 ans, hein, et que vous habitez dans la ville la plus covidée de France, Marseille. Et hop, prends ça dans ton dentier.
Oh, mais calmez-vous tous les deux, enfin. Allez.
Non, mais alors, les oui, qu'est-ce qu'il y a?
Le vieux débris.
Non, c'est trop. Les insultes maintenant, eh bien écoutez, moi je vais lâcher le mot. Je sais que c'est pas l'heure pour le dire, mais je lâche le mot, je lâche l'insulte. Écologiste, va.
Cher Jean-Claude, je vous emmerde.
Non, mais toi, attends, lâche-moi.
Bon, allez, on va les laisser, je crois.
C'est bon. Bonjour, cher Julie, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue sur Europe 1. Tiens, écoutez, Sonia, bienvenue, Sonia. Sonia Babrouk, reviens. Ça va, Sonia?
Oui, écoutez, vous avez entendu, c'était chaud mon interview avec Adrien Quatennens. Vous avez vu que c'était une interview musclée, on aurait dit... SGOM, on a frôlé tous les deux le carton rouge. Excusez-moi, mon cher Mathieu, de cette violence, cette démonstration de violence, mais j'ai failli, oui, vous l'avez vu, à un moment donné, j'ai failli tomber la veste Chanel et lui mettre un gros taquet. Oui, un gros taquet.
On a bien senti, chère Sonia, la tension. En tout cas, c'est sûrement lié à la chaleur, car il fait très chaud. Bon, répétons-le sur Europe 1, il fait très chaud aujourd'hui. Notre nouveau slogan, c'est regarde le monde transpirer. L'info du jour, en effet, ce sont les fortes températures d'été aujourd'hui dans tout le pays. Et oui, c'est un temps à flâner dans les parcs, disons-le, à bronzer à la plage, à draguer les filles dans les bars. Oh, eh bien non, non. En fait, ça va être un temps à rester seul chez soi pour éviter le coronavirus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est d'accord, Julie, on n'en vit pas la vie des jeunes en ce moment. Julie, je ne pensais pas que je dirais ça un jour, mais je suis très content d'être vieux. Voilà. En tout cas, à mes côtés, il y a Laurent Cabrol, à l'instant, qui se désinfecte à l'alcool. Enfin, qui, pour être exact, qui s'hydrate à mes côtés. Vu l'odeur du breuvage, s'il y a la moindre molécule de Covid à l'intérieur, c'est sûr qu'elle va mourir, la molécule. Voilà. Tiens, d'ailleurs, Laurent allons-y. Un point météo avec Laurent Cabrol.
Écoutez, effectivement, il fait chaud. Hein, il fait chaud, vous l'avez constaté. Les écolos ont raison de supprimer le sapin de Noël, hein, puisque de toute façon, il n'y aura pas de Noël selon Météo France, qui prévoit une température, tenez-vous bien, chers amis, une température de 34 degrés sur Bordeaux en décembre. Alors, pour ce qui est du temps aujourd'hui, on fera 38 degrés sur la capitale, en température ressentie, hein, bien sûr, sous le masque, il fera 74 degrés. Voilà. Il fera 44 degrés, notons-le quand même, 44 degrés, c'est une première, 44 degrés en Alaska, 47 degrés au pôle Nord et 11 degrés en Bretagne. Oui, c'est un classico.
Il fait chaud,
Mais quoi qu'il arrive, réchauffement ou pas, il fait toujours 11 degrés en Bretagne. Hein, ça ne varie pas. Mais en Bretagne, il pleut, vous savez, toujours comme vache qui pisse. Donc...
Merci. Laurent, j'étais en panne sèche. Pleuvoir comme vache qui pisse. Bonjour, oui, c'est Stéphane Bern. Oui, aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où vient l'expression qui passionne tout le monde. Il pleut comme vache qui pisse. Figurez-vous qu'en 1133, le 27 Brumaire, François Brumier s'était aménagé un salon dans une étable, car il aimait à regarder Netflix. Mais la fibre ne passait que dans son étable. Du coup, il avait déménagé la vache qui était dans son étable, il l'avait, François Ier, mis à l'étage juste au-dessus. Et comme le parquet à l'époque avait des trous, parce qu'il avait été posé par un mauvais installateur de véranda à Kenna, la plus vieille véranda, bon bref, ils m'ont débauché, ça leur apprendra, eh bien, la pauvre Marguerite faisait ses besoins ainsi. Et il pleuvait comme vache qui pisse.
Mais qu'est-ce que vous racontez, Stéphane? Il n'y avait pas Netflix en l'an 1133, ni François Ier d'ailleurs.
Oui, c'est ça qui est bien, ne dis pas trop fort, ma chère Julie. C'est ça qui est bien avec l'histoire, on peut raconter ce qu'on veut, on n'était pas là pour vérifier.
Ouais, bah vous en privez pas, hein, Stéphane. Allez, à bientôt, à cet après-midi, 16h. Allez, tout de suite, élu haut commissaire au plan, François Bayrou donnait avant-hier une interview au JDD. Monsieur Bayrou, en quoi consiste ce poste, hein, que certains considèrent comme un placard, faut bien le dire.
Madame Julie.
Ah tiens.
Oui, je l'ai passé en une fois.
Ah bah oui,
aujourd'hui.
Bravo.
Oui. En quoi consiste le poste de haut commissaire au plan? Eh bien, vous le savez, gouverner, c'est prévoir.
C'est
préférer parfois un placard à Paris plutôt qu'un bureau à Apeau.
Alors, votre rôle va être de réfléchir à l'avenir de la France, hein, c'est ça?
Voilà, c'est exactement cela. Je deviens donc une sorte de président du Yaka Faucon.
Président du Yaka Faucon, expliquez.
Oui, pour être explicite, mon rôle va être quoi? Il va être de dire, il n'y a qu'à produire des masques dans notre pays, faut qu'on retrouve notre souveraineté, il n'y a qu'à relocaliser les usines, faut qu'on respecte la planète,
etc. Mais comment on va juger vos résultats?
Eh bien, comme je dois penser à la France de dans 30 ans, on se donne rendez-vous, comme dirait Monsieur Bruel, dans 30 ans.
Mais attendez, vous avez 69 ans.
Sauf que lui,
ans.
C'est 10 ans, je crois.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est pas dans
grave,
le texte, mais ça
m'amuse. Non, mais oui, mais c'est
de
pas
vous
la peine.
Perturber alors, quand attendez. Vous êtes dans vos feuilles à plus savoir où vous en êtes.
Non, alors attendez, on va faire un petit calcul. Vous avez 69 ans, vous aurez donc 99 ans dans 30 ans.
Oui. Et, ah. Oui, et si, vous savez, si je n'ai pas réussi à moderniser la France à 99 ans, eh bien, vous savez, je suis un homme politique responsable. J'en tirerai les conclusions en me retirant de la vie politique, ah, oui. s'il le faut, à 99 ans, en pleine force de l'âge.
Ça sera raisonnable.
Je vous en prie.
Merci, monsieur Bayrou. Avant que Jean Castex n'annonce rien de spécial, la rumeur d'un couvre-feu à 23h circulait. On va en parler avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Bonjour, madame Bachelot.
Oui, bonjour, c'est Roselyne, bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol, Monsieur Mohamed, formidable, écoutez, ou c'est un collègue, écoutez, oui, ben, monsieur, ben, si, Monsieur Béliard, le seul journaliste français, précisons-le, qui rend hommage chaque matin à Alexandre Dumas, puisqu'il arbore magnifiquement le look de D'Artagnan.
Alors Roselyne, un couvre-feu à 23h sera un nouveau coup dur pour la culture, puisque pour être chez soi à 23h, il faudrait des spectacles qui se terminent à 22h, par exemple.
Oui, oui, mais écoutez, non, enfin, on marche sur la tête, allons. Mais on n'a qu'à faire aussi des concerts qui commencent à 4h de l'après-midi, avec un siège sur deux, et puis 2 mètres de distance entre chaque spectateur. Non, franchement, c'est n'importe quoi, chère Julie. Non, arrêtons, je le dis de grâce, cette mascarade, il faut que ça cesse. Vous vous rendez compte que le seul concert auquel les Parisiens et les Parisiennes ont eu droit à assister en 3 mois, c'est celui de Brigitte Fontaine, comme s'il n'avait pas assez souffert, assez comme ça, avec ces pauvres Parisiens.
Brigitte Fontaine à l'Olympia, hein, c'était ça, oui. Bon, oui, bah, c'est bien, Brigitte Fontaine.
Oui, bien sûr, écoutez. Non, mais écoutez, c'est une artiste hors pair, j'ai beaucoup de respect pour Brigitte Fontaine. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué le paysage de spectacle en ce moment culturel. En concert, il y avait Brigitte Fontaine et au cinéma, on a Police d'Anne Fontaine. Ah, je peux vous dire qu'elles sont créatives, les femmes Fontaine.
Oh non, pas vous, arrêtez. Allons, Roselyne. Bah,
excusez-moi, bah, écoutez, des années de grosse tête, ça déforme. Hein.
Bon, en tout cas, le conseil scientifique n'aide vraiment pas la reprise des spectacles.
Mais oui, mais je le dis au gouvernement, il faut arrêter de toujours leur demander leur avis au conseil scientifique. Ils sont totalement frileux, ces pauvres garçons du conseil scientifique. Sur RTL, il y a les grosses têtes, et au conseil scientifique, il y a les petites bites, hein, croyez-moi. Oui, mais écoutez, quoi, c'est de la culture aussi, les Beatles. Les petites bites,
Mais
oh, mais écoutez, c'est mon syndrome grosse tête qui revient.
Oui, oui, mais écoutez, on va vous laisser.
Oui, la prochaine fois.
Bon, allez. Le téléfilm, pour terminer, le téléfilm Pourquoi je vis, le biopic sur Grégory Lemarchal, a été un énorme succès. Le spécialiste média Jean-Marc Morandini a tenu à revenir dessus. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour ma chère Julie. Bonjour, il y avait longtemps. Ouais. C'est Jean-Marc Morandini. Jean-Marc Morandini, oui, Philippe Bandel avec plus de cheveux blancs. Enfin, moins de cheveux blancs, pardon. Oui, aujourd'hui, dans Morandini, nous allons revenir sur le succès du téléfilm Pourquoi je vis, puisque nous avons des informations exclusives Morandini, labellisées. Une suite serait en effet en préparation. Non pas une suite où Grégory Lemarchal revient, ça se verrait trop.
Ce serait une arnaque.
Un deuxième épisode nommé Pourquoi j'en vis pas. Voilà, ce sera cette fois le biopic de Magali Daé. Voilà, la gagnante de la Starac l'année après Grégory Lemarchal et qui effectivement elle ne vit pas de cette
activité. Succès, voilà.
C'est à retrouver tout à l'heure dans Morandini.
Oui, bonjour. Je remets un peu parce que nous attendions la chronique qui suit. Alors, bonjour. Bonjour, les auditeurs. Vous m'avez reconnu. C'est Mathieu Béliard pour vous servir sur Europe 1. Europe 1 qui? Oui, chers auditeurs, on va tout vous dire aujourd'hui. On a décidé de faire du neuf. On a décidé de se délocaliser et de vous faire découvrir à vous. C'est une œuvre pédagogique à vous, chers amis, chers auditeurs, des petits endroits méconnus de Paris. Le Paris caché. Les petites adresses inconnues qu'on se refile sous le manteau. Et aujourd'hui, nous faisons découvrir la Tour Eiffel. Nous sommes donc au premier étage de la Tour Eiffel. Heureusement qu'on n'a pas fait cette émission, vous l'avez compris, le jour de la sortie des audiences, sinon on aurait quelques cadres d'Europe 1 qui seraient balancés dans le vide. Alors, on va parler d'économie. On a beaucoup parlé de la crise économique qui touche tous les secteurs. Alors, tous les secteurs sont impactés par la crise économique, c'est dur pour tout le monde en ce moment sur le plan économique. Alors vous demandez légitimement pourquoi cette émission d'Europe 1 depuis la Tour Eiffel. Eh bien, pour tout vous dire, on se demande aussi, parce que j'en parlais aux financiers d'Europe 1, ça coûte une blinde cette connerie. La déloc, c'est beau, mais ça coûte une blinde. Le petit pain au chocolat que vous achetez 1,10€ en bas, eh bien, il arrive ici 18,50€ en haut du premier étage.
Alors, c'est comme au ski.
C'est comme au ski. Mais aucun rapport, mais c'est pas grave. Bonne intervention, mais c'est beau. Pour une émission de. C'est vrai que pour une émission de télé, c'est un magnifique studio, ça aurait été, mais. Manque de peau, on fait que de la radio. On a des super idées, mais toujours peut-être un petit peu à côté. Allez, tout de suite, on va positiver. On est positif sur Europe 1. On va faire un point météo avec Laurent Cabol. Laurent ?
Oui. Doucement les copains, on va se faire virer. Oui, mais non, mais moi je suis pas très Tour Eiffel parce que mon Jimmy, je peux tout te dire. Il faut que tu me consultes parce que j'ai le vertige. Hein. Ça tangue. Je suis pas du tout bien du tout. Moi, pour tout vous dire, chez les copains, j'ai envie de vomir. Hein.
Oh là là.
Arrête.
Il dit oh non. Allez. Ben vous êtes tout en haut de la Tour Eiffel. Hein.
Ah non, je suis en bas, moi je suis au bistrot. Hein. Non, écoutez, pour tout vous dire, j'ai bu le petit verre de l'amitié avec le personnel de la Tour Eiffel. C'est très sympa, hein. Tous les liftiers, les gens des ascenseurs. C'est... Oui, mais j'ai le vertige au rez-de-chaussée, je suis un des rares. Depuis l'âge adulte, hein. C'est le syndrome, je ne sais pas si tu connais Jimmy, c'est le syndrome, je m'adresse au docteur, du syndrome du vertige post-apéro. Ça peut me prendre dès le matin.
Oh hein. Mon pauvre Laurent, oh là 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 là.
Oui, bon. Écoutez, alors Laurent, on se retrouve, on vous laisse le temps. De monter au troisième, et puis on vous rappelle, Laurent, quand vous serez là-haut. C'est une journée exceptionnelle, chers auditeurs. Vous l'avez compris, sur Europe 1. Europe 1 est en délocalisation. Tout Europe 1 est mobilisé. Oh oui, bonjour. C'est Stéphane Bern. Je vais tout vous dire, chers auditeurs. J'étais en panne sèche. Je ne savais pas quel sujet trouver ce matin comme expression. Mais ça y est, j'ai trouvé. Je vais vous expliquer d'où vient l'expression avoir plus d'une tour dans son sac. Eh bien, figurez-vous, ma chère Julie. Qu'en 1545, sous Oula. Charlemagne,
oui.
approximativement, il y avait déjà au pied de la Tour Eiffel, tenez-vous bien, des vendeurs gabonais et sénégalais qui vendaient clandestinement sous le manteau des petites Tours Eiffel. Mm-hmm. Et d'où vient l'expression, ils avaient plus d'une tour dans leur sac.
Oh là là, mais arrêtez Stéphane, enfin. Mais...
Remettez-vous,
oh,
Mathieu.
La Tour Eiffel en 1645, oh, d'accord.
Mais attends, vous y étiez, vous, en 1645 ?
Oui.
Quoi que... Je dis pas, ça je note. Applaudissez Julie, c'était pas dans le texte. J'avais pensé. Oui, c'est ça quand j'ai. Non, allez, laissez-moi faire mon travail d'historien, on peut pas vérifier, c'est l'avantage de mon job.
Allez, merci Stéphane. Bon, ben, on nous dit que Laurent Cabrol est arrivé au troisième étage de la tour, ça y est.
Non, je suis désolé, excusez-moi, je suis désolé. Non, il est arrivé ce qui devait arriver à l'altitude, mais voilà, j'étais malade. C'est passé par-dessus la balustrade, tout mon petit déjeuner. Je crois que j'ai vomi sur un groupe de Chinois qui faisait la queue en bas pour acheter des billets.
Les Chinois, tiens.
Oui, vous avez l'image.
Bon, merci Laurent.
Mais en faut pour tout le monde, les Gabonais, les Sénégalais.
Oui, ça y est, on a compris. Allez, Laurent, merci, à plus tard. Mais Barbara Pompier était avec nous ce matin. On va recevoir une femme qui la connaît bien. On l'a déjà entendu, le petit oui, c'est Ségolène Royal. Vous la connaissez bien. Bonjour Ségolène Royal.
Oui, c'est joli ici.
Ah, c'est bon,
oui.
Hein,
c'est joli vos nouveaux locaux. Mm-hmm. Vous avez. C'est quoi? C'est un achat, une location? Vous êtes locataire?
Non, on ne sait que pas.
On ne saurait pas te donner du même carré ici, par les temps qui courent.
Oui, on aurait dû demander à Anne Hidalgo.
Oui,
bon,
oui.
Revenons au sujet. On vit depuis deux jours une chaleur inhabituelle. Nous sommes à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières.
Oui, hein. Vous faites bien de le rappeler, Madame Julie. 15 degrés au-dessus des normales saisonnières. Donc j'ai envie de dire bravo à Barbara Pompili, hein, la représentante, puisque j'ai entendu l'interview, la représentante de commerce de la 5G. Hein,
oui, c'est ça.
C'est quoi? Attends, je me suis emmêlé dans un fil. Ah oui, à tous les coups, c'est un fil. Ah oui, c'est un fil d'antenne, une antenne de 5G qu'a dû installer Mme Pompili en venant dans votre studio.
Ça doit être ça.
Ouais. Hein, bravo, bon bilan à Barbara. Elle est ministre depuis deux mois. Elle a déjà pris 15 degrés Celsius d'augmentation. La planète vous dit merci, cher Borboro.
Borboro, mais ça n'a rien à voir. Écoutez, elle n'est pas responsable du réchauffement climatique. Elle est là, vous le disiez, depuis deux mois.
Ah bon? Ah, le réchauffement climatique, c'est pas ces oignons, là, Barbara. Ah, pardon, mais non, non, mais autant pour moi, non, je ne savais pas, je croyais que si, non, donc elle est en charge que du dossier betterave. Hein, c'est ça. Un dossier qu'elle a raté d'ailleurs. Donc je le dis aux auditeurs d'Europe 1, si vos enfants ont les dents qui tombent à cause de la salade de betterave de la cantine, vous pourrez dire à Marsiki, merci à Barbara Pompili.
Voilà. Mais je rappelle aussi que vous n'êtes plus ambassadrice des pôles, Ségolène Royal.
Oui, oui, oui. C'est une, oui, mais c'est une belle observation. Oui, effectivement, oui, parce que mon, mais c'est un sujet sérieux, monsieur Béliard. Oui, je ne suis plus ambassadrice. Pourquoi ? Parce que mon bureau a fondu. Avec la fonte des glaces. Mon bureau a fondu à cause de Barbara Pompili. Mon collaborateur, le plus direct, mon chef de cabinet, Nestor.
Ah, le pingouin ?
Oui. Oui, ça vous fait rire. Hein, ces blagues d'enfant. Vous dites Nestor.
Nestor,
il passait à travers le carrelage en glaçons. Moi, je suis rentré façon paddle sur mon bureau qui flottait à genoux en train de pogayer. Hein. Je suis arrivé de nuit à Saint-Nazaire. Encore merci à Emmanuel Macron pour ce poste valorisant.
Au revoir Ségolène Royal, à bientôt. Anne Hidalgo était aussi avec nous ce matin en direct de la Tour Eiffel.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les Parisiennes, à tous les Parisiens. Merci, rebonjour à Mathieu Béliard qui m'a mis en valeur en me posant des questions faciles tout de suite avec les explosions des immeubles de gaz à cause du gaz rue de Trévise en Paris. La deuxième question sur les attouchements sexuels à la mairie de Paris. Merci de cet accueil qui m'a permis d'être très à l'aise. Bref, très heureux d'être invité ici à la Tour Eiffel, qui est un lieu que je connais bien. Nous sommes au premier étage et j'ai ici, je dois vous le dire, mon petit boîtier.
Boîtier ?
Oui, j'ai mon boîtier.
C'est quoi votre boîtier ?
Alors, mais ce sont des boîtiers électriques. C'est un boîtier électrique. Et juste là, c'est un bouton, voyez-vous, qui me permet d'illuminer la Tour Eiffel. Par exemple...
Pour des événements, oui.
Pour des événements, vous l'avez compris. Par exemple, en vert. Pour rendre hommage à l'Amazonie. Vous voyez, je mets en vert.
En vert. Magnifique.
Voilà.
Entièrement vert, oui.
Alors forcément, on est à la radio, donc ça se voit moins. Mais on avait répété avec l'éclairagiste que je vais mettre en valeur en le citant. C'est Carlos qui est éclairable en ce moment. Alors, je peux mettre aussi, rendre aux femmes, hommage, pardon, aux femmes qui souffrent en la mettant en rose. Voilà. Le bruitage sonore est très bien. Au niveau lumineux, c'est moins bien. N'allez surtout pas sur Internet, sur Europe.fr. C'est de la merde. Il y a aussi le... Oui, on peut l'éteindre tout en noir, le studio, pour rendre hommage aux populations noires qui sont nombreuses à souffrir. On peut également, et là elle y est, on peut la mettre en bleu.
Ah, quand même.
Oui, les couleurs d'Europe 1 qui peut aussi parfois souffrir. Voilà.
En tout cas, on est ravis d'être ici.
À cartonner ce sketch lumineux.
Heureusement qu'il y avait le bruitage, hein, des petits, des petits boutons du boîtier.
Mais on c'est juste un ressort, vous savez.
Bon, écoutez, on est ravis d'être ici, en tout cas. On est, hein, c'est magnifique, hein, la vue ici.
Ah oui, ouais, oui, c'est vrai qu'on a
la vue
on
sur
a
tous les monuments de Paris.
Magnifique, magnifique cette vue. Non, la vue, non, c'est surtout qu'on a une vue sur tous les embouteillages, tous.
Bon, bah, merci. Merci Anne Hidalgo, c'est bon. Et allez, pour terminer, puisqu'on est à la Tour Eiffel, un petit mot de sport. On l'a appris hier, la course verticale. Cette course qui consiste à gravir le plus vite possible les marches de la Tour Eiffel a été annulée à cause du coronavirus. Nelson Monfort.
Oui, oui, effectivement, ma chère Julie. Après le théâtre, après le cinéma, les discothèques, voilà encore un domaine victime du Covid. Ce sont les sports à la con. Voilà. Parce que la course verticale dans la Tour Eiffel a été annulée, vous l'avez rappelé, ma chère Julie, mais également, nous avons annulé le slalom géant dans les escaliers de la Tour Montparnasse, le lancer de nain en arc de triomphe, le bobsleigh catégorie Galbinos, moins de 12 ans, dans les escalators du Centre Pompidou. Toutes ces épreuves ont été annulées, nous le regrettons pour la beauté du sport.
Je ne savais même pas que ça existait tout ça. Hein.
Ah, si, c'est totalement officiel. Les compétitions se font sous l'égide et le patronage de la FFALCC, c'est la Fédération Française des Sports à la Con. On a également dû annuler, tenez-vous bien, mon cher Jimmy, mon cher Mathieu, on a également dû annuler à cause des projections salives du 12 au 15 septembre le championnat du monde de crachat de noyaux de cerises du haut du Mont-Saint-Michel. Bref, c'est un drame dans le milieu du sportif. Et oui, comme il n'y a que des Français qui participent, c'était au moins. Et des compétitions où on avait l'opportunité, nous Français, de pouvoir gagner. Vraiment.
Gagner,
ce n'est pas une année pour le sport tricolore. À vous la Tour Eiffel, à vous Paris.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, l'actualité, c'est bien sûr, nous l'avons dit, la météo avec les chaleurs exceptionnelles de ce mois de septembre. 35 degrés, oui, disons 35 degrés à Lyon hier. La mairie d'ailleurs a pris immédiatement des mesures d'urgence en décidant par exemple d'arroser Gérard Collomb.
Écoutez, alors là, ce n'est pas, je le dis, respectueux de votre part, monsieur Béliard. Vraiment, la mairie ne m'arrose pas, c'est même le contraire, puisque c'est moi qui suis allé à la mairie. Et je dois vous dire, oui, je l'assume, j'ai uriné sur le bureau de ce crétin d'écologiste qui me remplace, oui, Gérard Doucet. Vous savez, ce genre de... excusez-moi, j'ai un rhume. Ce genre de sinistre personnage capable d'écouter en boucle sur podcast les chroniques de Madame Agostini qui nous parle des vers de terre plombiers qui se dénichent la moutarde. Ouais,
bah. Et c'est Grégory Doucet, le maire, hein, en fait.
Oui, j'ai dit quoi,
madame? Je sais plus, j'en sais rien, mais pas
Grégory,
ça.
Oui, de toute façon, oui, on s'en fout.
Non, Gérard Collomb, on s'en fout pas, c'est l'actualité, c'est l'info, ça me passionne, c'est tout simple. Alors, et puis, l'autre info, allez, on change de sujet, on va, parce que c'est une radio internationale européenne, on va ouvrir les frontières. Excusez-moi, j'ai pété le plexiglas, j'avais oublié. Il faut rendre hommage à toutes les femmes de ménage qui font les plexis, qui sont tellement transparents qu'on les voit pas. Merci à toutes ces petites gens qui sont nécessaires à la bonne marche d'une radio. Donc, j'en étais où? Oui.
Bon, alors, la Chine,
l'international, faut que je passe les bras au-dessus du plexiglas. L'autre info, c'est la Chine qui a annoncé qu'un vaccin était quasiment prêt contre le coronavirus.
Madame Julie, on met un chelet lunettes, je vois rien du tout. Oui, faut que je lève la tête plus haut pour faire Raffarin. Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est moi, je parle de moi, la troisième personne. Niaho, monsieur Béliard, monsieur Mohamed, monsieur Cabrol, c'est moi, Jean-Pierre Raffarin. Rien, madame Leclerc. Oui, je suis l'ami de la Chine. Bientôt, le vaccin sera prêt, oui, bientôt, enfin. un remède miracle dont nous boirons les gélules à même la seringue, monsieur Mohamed, tout à l'heure dans les coulisses. Alors, on en est déjà, sachez-le, à la troisième phase. D'abord, les vaccins ont été synthétisés en laboratoire. Mais écoutez, monsieur Bénard, peut-être vous dire au texte. La deuxième phase, ils ont été testés, synthétisés en laboratoire, puis ils ont été testés sur des opposants politiques. Et maintenant, ça y est, on peut envisager la troisième phase en toute sérénité, de les tester enfin sur des rats. Une fois que les rats seront testés, bien sûr, ils seront administrés aux enfants tibétains, puis ensuite aux chiens, puis enfin à la population. Vous voyez que pour mettre personne en danger, tout est hiérarchisé. C'est ami chinois. Vous pouvez reprendre vos textos, monsieur Béliard.
Merci beaucoup, monsieur Raffarin. Emmanuel Macron a défendu l'installation de la 5G. Il a comparé ceux qui y étaient hostiles à des Amish, cette communauté religieuse américaine qui vit comme au XVIIIe siècle. Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, a déclaré qu'il n'y avait aucun mépris dans cette formule.
Bon, écoutez, ma chère Julie, ce n'est pas ma rubrique, pardonnez-moi. Pardonnez-moi ici, Nelson Monfort. Écoutez, je me permets d'intervenir car je connais ce métier difficile de traducteur.
Ah, oui.
Ce qu'a essayé péniblement de faire Amélie de Montchalin. Je vais prendre, si vous permettez, la suite, je vais tenter de vous aider car quand Emmanuel Macron, soyons clairs, compare les opposants à la 5G à des Amish qui veulent retourner à la lampe à huile, eh bien il n'y a aucun mépris. Il n'y a aucun mépris dans la bouche du président. Le président a simplement voulu dire dans son langage, peut-être un petit peu fleuri, peut-être imagé, qu'il assume qu'on ait besoin. Il assume totalement ce besoin d'innovation et que la technologie peut apporter, nous le savons tous ici, à la régie, bien sûr, moult services.
Monsieur Macron ?
Oui, voilà, merci. Merci en tout cas, cher Nelson Monfort, de me traduire. Parce que, vous savez, cher Julie Leclerc, la 5G, c'est l'avenir. Moi, je me refuse à écouter les écolos rétrogrades qui veulent nous envoyer à l'âge de pierre, pardonnez-moi. Je trouve ça fou que des gens qui sont déjà pas capables de se laver les cheveux correctement et qui, de surcroît sans le poney, osent donner leur avis sur un problème de technologie.
Nelson, une petite traduction de ce qu'on vient d'entendre.
Je vais sortir. Le président de la République a vu simplement dire qu'il apprécie de la part des gens des territoires un certain retour à la ruralité, mais que néanmoins la passion du terroir ne doit pas être un frein à l'élan vers la modernité. Voilà,
merci cher Nelson. Voilà, c'est parce que ces gens-là, soyons clairs, on va se parler en toute transparence, ces gens-là, c'est des animaux. C'est même plus que ça, c'est des cro-magnons. Faut être un babouin pour refuser le progrès que constitue un frigo connecté. La domotique, merde, c'est pas pour les chiens.
Nelson.
Alors, le président veut dire qu'il n'a rien. Vous avez tous compris qu'il n'a rien contre la biodiversité, mais qu'il tient tout de même à développer l'économie verte et doper ainsi la croissance de notre pays grâce à des fantastiques innovations technologiques.
Oui, en plus, vous avez vu la gueule qu'ils ont, les opposants à la 5G. Hein, je suis sûr que leurs parents, ils sont cousins.
Écoutez, moi je ne peux plus rien faire à ce niveau-là. Pourtant, vous savez, monsieur Mohamed le sait, je suis bilingue en traduction français, langue de bois. Voilà, là vraiment, je ne trouve plus les mots, ma chère Julie, enchaînez comme vous pouvez.
Eh ben, je vous remercie déjà tous les deux, monsieur Macron, monsieur Montfort. Allez, on file à Bordeaux, où de nouvelles mesures anti-Covid ont été prises. Limitation. Qu'est-ce qui est drôle ? Limitation des rassemblements.
Quand le mot est drôle, tout simplement.
Interdiction des soirées dans centre. Interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique. Annulation des journées du patrimoine. Ça en fait des choses, hein.
Ne vous inquiétez pas, madame Julie. Les Bordelais vont encaisser ces mesures comme si de rien n'était.
Ah, la Juppé ! Salut Alain Juppé, c'est
vous
vrai
que bien le côté salut découverte, alors je suis devant vous depuis déjà 10 minutes. Quelle comédienne cette Julie Leclerc.
Bon, c'est vrai qu'ayant été maire de Bordeaux pendant 20 ans, vous connaissez bien les Bordelais. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces restrictions? Même les soirées entre amis sont limitées.
Écoutez, ma chère Julie Leclerc, interdiction, vous l'avez dit, de danser, de boire, de faire la teuf, comme disent les jeunes, de voir ses amis. Le Bordelais va se faire chier, je ne dis pas le contraire. Mais vous savez, on parle d'une population qui a voté pour moi 20 ans de suite. À la base de construction, le Bordelais n'est pas un gros déconneur. C'est un type qui aime bien Alain Juppé, qui aime le silence, qui aime se coucher tôt. Le Bordelais aime se faire chier.
Ah bon ?
Oui, limiter les rassemblements. C'est très drôle, limiter les rassemblements entre amis à 10 personnes. C'est totalement risible. Est-ce que vous pensez vraiment que, à titre personnel par exemple, est-ce que vous pensez vraiment que j'ai plus de 10 amis ? Bon, le Bordelais, il a 2-3 amis, mais grand maximum. Il est tellement sûr de lui qu'il n'a que 3-4 personnes dont il tolère la présence. Des amis avec qui il partage, bien sûr, de bons moment, de temps en temps, pour bien se faire chier. Oui, se faire chier le week-end, se faire chier le dimanche, par exemple, en regardant un match des Girondins de Bordeaux. Est-ce que vous avez déjà vu, monsieur Cabron, est-ce que vous avez déjà vu un match des Girondins de Bordeaux?
Non.
Ah, il faudrait que je vous fournisse une cassette VHS d'un match des Girondins.
VHS.
Vous savez, j'ai vu des documentaires d'Arte, monsieur Vandel est en train de céder sa place à monsieur Mohamed. Oui, on sent la hiérarchie de... Oui, 30 ans de boutique, 2 mois d'existence.
Enchaînez. Monsieur Juppé, allez-y parce qu'on n'aura pas le temps.
Non, j'ai vu des documentaires d'Arte sur la reproduction des papillons en Ouganda et leur influence sur la politique monétaire de la Namibie qui était plus passionnant qu'un match des Girondins de Bordeaux.
Donc pour vous, pas de problème, les Bordelais vont respecter ces nouvelles mesures.
Bien sûr, mais les doigts dans le nez, vous savez, j'ai mis 20 ans. 20 ans, madame
oui,
Julie.
Oui.
Vous êtes puni, monsieur Mohamed ? J'ai près du radiateur, pour le garçon. J'ai mis 20 ans, pardonnez-moi pour cette digression, j'ai mis 20 ans à transformer une ville, qui était une ville de rock
underground et de soirées foot passionnantes pour qu'elle devienne le paradis des cadres en chemisette bleu clair avec pull framboise sur les épaules et pieds nus dans leur mocassin à gland. Croyez-moi, les priver de sortie, c'est comme priver Gérard Depardieu de Vitel Citron, balèque totale.
Monsieur Juppé. Allez, une petite info au spectacle pour terminer. Francis Cabrel sera en concert aux Folies Bergères du 5 au 15 novembre. Bonjour Francis.
Ah, bonjour à toi, petite Julie, à toi, Mathieu Béliard. Aux paupières lourdes comme des bouteilles de butane qu'on a vu hier tout en haut de la Tour Eiffel en acier au reflet d'argent. C'était marrant, votre émission hier sur l'écologie et Barbara Pompili, alors qu'on était sur le plus gros monument en ferraille. Bon, j'imagine que ça aurait été un trop gros budget de refaire la Tour Eiffel en platane juste pour l'occasion.
Ah bah oui, on n'y a même pas pensé pour tout
vous
dire.
Oh pardon, salut, je l'avais oublié, pardon. Salut à mon presque cousin Laurent Cabrel. Carole. Et au docteur Jimmy Mohamed.
De toute façon, personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed.
Jimmy ou Mohamed. Super cette chanson. Personne ne t'aide quand tu t'appelles Jimmy ou Mohamed. Même Vandel te pique ta place partielle quand tu te retrouves collé au fond du studio. Après de ton radiateur, même en plein été, quand il fait 38 degrés dehors.
Francis.
J'aime ce garçon, Jimmy Mohamed. J'adore l'idée à la fois ce côté Bob Dylan et Rachita.
Alors Francis, pourquoi ce concert? On a donné les dates, hein, du 5 au 15 novembre.
Du 5
au 15,
15 novembre. Oh putain, j'avais pas réalisé ça. Ça va me faire travailler 10 jours cette année là. Pourquoi ce concert, tu me redemandes?
Ben oui, pourquoi
tu sais, des fois, il faut savoir s'imposer un rythme infernal d'un disque tous les 10 ans, d'une tournée tous les 11 ans. C'est ça, c'est la machine infernale du succès qui te broie.
Et pourquoi le choix des Folies Bergères, Francis?
Parce que dans Folies Bergères, il y a Bergère. C'est pour faire une chanson, ça. C'est une folie, petite bergère. C'est pas mal, je sais pas si c'est très 2020, le thème de la bergère. Oui. Alors que, bon, qu'est-ce qu'on disait, oui. Non, mais moi, alors, si tu veux, j'aime les salles qui ont des noms de campagne, tu vois, comme ça, les Folies Bergères, les Vieilles Charrues, les Deux Ânes, le Café de la Gare, le Bœuf sur le Trois.
Alors, Renaud a fait une chanson sur le Covid. Est-ce que ça vous donne envie d'en écrire une, Francis?
Non, alors, moi, ça me donne envie d'arrêter de boire complètement. Je ne bois que de l'eau de la rivière qui dévale la montagne en cascade, dans un tourbillon de remous qui chante dans le torrent de ta vie qui coule.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez. L'actualité, bien sûr, c'est cette bonne nouvelle, il faut le dire. Valéry Giscard d'Estaing est sorti de l'hôpital où il était admis pour un problème pulmonaire. Tous nos voeux de rétablissement sincères à l'ancien président.
Je n'ai pas besoin de vos voeux de prompt rétablissement, monsieur Béliard. Regardez-moi, je vais très bien. Je pète le feu, comme disaient les jeunes. Incroyable, Bibi, non, croyez-moi. Vous n'êtes pas prêt de vous débarrasser de moi. J'ai tous ces intérêts, moi, les Le Pen, les Juppé, les Arcolon. Non, croyez-moi, je dois vous laisser. Je prends ma trottinette électrique et je file. Allez. Je suis pressé, je dois me préparer pour ce soir. J'ai organisé une soirée mousse à la maison.
À votre âge, quoi? Une soirée mousse?
Oui, une soirée mousse. Tout de suite, je vois les allusions, parce que Mohamed est un habitué d'Ibis. Ça. Des soirées mousse, foie de volaille, deux foie de volaille, mousse de légumes, d'accord. Et on finit avec une mousse au chocolat. Oui, parce que c'est facile à mâcher. Je pète le feu, d'accord, mais j'ai quand même l'âge que j'ai.
Allez, merci, monsieur le président, vous êtes en pleine forme, c'est
merci,
très bien.
Merci, monsieur le président, on est rassuré. Et puis l'autre info, c'est bien sûr le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est intervenu hier pour rassurer les Français. C'était sa mission hier en direct. On recoute d'ailleurs un extrait de son intervention.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'assister à cette conférence pour faire un point sur la situation du virus dans notre pays. Je ne vais pas vous mentir. L'épidémie est à nouveau très active sur notre territoire. La contagion est à la hausse. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Le vaccin n'est pas pour demain. La saturation des hôpitaux menace. Les vieux vont mourir. Les jeunes se contaminent. Des vieilles dames courbées ont été recrutées. voûter pour pousser des charrettes remplies de malades.
Oh là là.
Je reviendrai la semaine prochaine lors d'un nouveau coin pour rassurer les Français.
Oh bah non, ce sera peut-être pas la peine. Hein. Merci, non, non. C'était Olivier Véran. Hier, c'était la première journée d'action sociale contre le gouvernement Castex. Un appel à la grève avait été lancé par la SNCF, par exemple. Une grève assez peu suivie, faut bien dire.
Jubile.
On va en parler avec notre syndicat, délégué syndical cheminot, Monsieur Régis.
Bonjour, bonjour Mme Julie, bonjour à tout le wagon bleu,
oui.
Le wagon bleu, grève peu suivie vous dites, grève
peu suivie,
ouais. Ouais, je t'en foutrais, ta grand-mère elle est un peu suivie aussi, c'était juste un tour de chauffe, on a le droit de faire des tours de chauffe, hein, après des mois d'arrêt, fallait bien... Un petit tour de chauffe, un petit décrassage. C'était un petit, comme un petit match amical.
C'est ça. Écoutez, on ne comprend pas très bien le but de cette grève. Hein. L'État a pris à sa charge plus de 30 milliards d'euros de dettes de la SNCF et le plan de relance prévoit une enveloppe pour les transports. Bah, c'est bien, non?
Ben justement, c'est trop bien.
Ah bon,
c'est trop bien si le gouvernement règle tous les problèmes de la SNCF. Non, c'est trop bien, ça ne va pas. Qu'est-ce qui va nous rester? C'est vrai que tous les problèmes, la SNCF, qu'est-ce qui va nous rester comme prétexte pour faire grève?
Et
voilà. On a un coup d'avance, nous les syndicats. Qu'est-ce qu'on va devenir? Nous, on a besoin qu'il y ait des vrais problèmes qu'on ne résout pas pour conserver nos emplois. C'est une bataille pour notre travail qui consiste, je vous le rappelle, en grève à pas travailler.
Et dites-moi, sur le front social, est-ce que vous êtes solidaire des ouvriers de Bridgestone? On rappelle que le groupe a annoncé la fermeture de son usine de Béthune.
Ben, si on est solidaire, bien sûr, c'est scandaleux. On a besoin de cette usine. Hein, puis des pneus, on en utilise.
Ah bah oui, pour les voitures. Oui.
Non, pour les brûler. Oh la lourdasse.
Lourdasse.
Oui, j'ai inventé, c'est déposé. C'est cette usine de Bridgestone qui nous fournit tous les pneus qu'on brûle dans les manifs, hein, au pied des préfectures aussi.
Oui, c'est
là
ça.
Là encore, il n'y a aucun respect des emplois des syndicats. C'est quoi? C'est la guerre qu'ils veulent, Mme Julie? Monsieur Bayard, vous croyez quoi? Hein, ils veulent la guerre? Ben, vont la voir. Préparez-vous, hein, parce qu'il y a une prochaine manif qui va arriver. On va en faire brûler du Bridgestone. Avec un peu de chance, il y aura besoin d'en reproduire encore en urgence des pneus. Et là, du coup, ça a sauvé des emplois. La blouquée. Les vedettes. Rien.
Merci, monsieur Régis. Notre ministre de l'Intérieur a redit cette phrase sans équivoque. La drogue, c'est de la merde. Bonjour, Gérald Darmanin.
Oui, j'ai les biloutes.
Les biloutes.
Descente de police. Oui, j'ai l'impression d'être dans le film Transporteur. J'ai mis la musique de Miami Vice, même si je suis de Tourcoing. Oui, à Tourcoing, oui, parce qu'il y a assez peu de séries américaines d'un succès tourné à Tourcoing. Effectivement, vous avez raison.
Alors, contre la drogue, quelle est votre méthode, en fait?
Ma méthode, quelle est-elle? Eh bien, je vais vous la narrer. Elle est très simple. C'est des flics. Hein, et des descentes de flics. Voilà, des caméras, des phrases choc en bas des immeubles, comme « Madame... Vous voulez qu'on vous dérase des racailles? Eh bien, on va la passer au jet d'eau, votre cité des 2000.
Non, attendez, la vraie phrase, c'était pas ça. C'était au Karcher, la cité des 4000.
Oui, je sais, mais comme je fais tout comme Sarko, mais en moins bien. Allez. Bon, écoutez, moi j'ai du travail, je vais commencer à lutter tout de suite. Allez, sortez vos joints, là, tous les drogués.
Enfin, il n'y a personne qui se drogue dans ce studio.
Personne ne se drogue, bien sûr. Allez, faux témoignage. Brigadier, vous me la bouclez après l'émission. Oui, son mari, Gérard Leclerc, viendra la chercher demain matin.
Ah, oh, d'accord.
Monsieur Cabrol. Cabrol? Oui, monsieur Cabrol.
Bah, oui.
Vous êtes, commencez pas à vous déhabiller, vous êtes dispensé de fouilles. L'anis et les liquides distillés ne sont pas sur ma liste. Par contre, on va demander au docteur Jimmy Mohamed d'ailleurs de vous raccompagner. Hein, et surtout, ne prenez pas le volant, monsieur Cabrol. Non, ne prenez pas le Vélib non plus. Ne prenez pas les baskets non plus. Hein, on va vous dépoter. Alors, monsieur Béliard.
Présent.
Oui. Vous croyez que je vous ai pas à l'œil? Vous avez tous les signes extérieurs du drogué. Vous jouez de la guitare, vous avez les cheveux longs et vous avez des fous rires compulsifs. Je crois qu'on n'a même pas besoin de tester le gars Béliard. Ça pue le cannabis à plein nez. Je pense que c'est Fanny Agostini qui cultive de la beuh à la campagne qui délivre.
Oh, ça y est.
Ah oui,
Comment de vous arrêter de fumer du cannabis, monsieur Béillard?
Ah, Edouard Philippe, eh ben, on a appris que vous étiez positif au Covid. Qu'est-ce que j'ai dit, Edouard Philippe? Non, c'est Edouard Balladur. Malade. Monsieur Balladur, pardon, vous avez bien reconnu pourtant. On a appris que vous étiez positif au Covid.
La voix était pourtant parfaite. Il n'y avait pas d'ambiguïté pour une fois.
Lapsus total. Allez, vous avez une idée d'où vous avez pu attraper ce virus?
Où est-ce que j'ai attrapé le virus? Écoutez, je pense que très certainement, c'est quand j'étais à Ibiza avec Neymar sur le bateau avec les 12 escorts. Mais quelle question conne, franchement. Oh, la lourdasse.
Merci, M. Balladur. L'usine de pneus Bridgestone à Béthune va donc fermer. Conséquence directe, 863 emplois seront supprimés. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a qualifié cette décision de révoltante. Bonjour, Monsieur Le Maire.
Oui, c'est révoltant. Bonjour, Mme Leclerc, Monsieur Béliard et tout. Bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Oui, je suis en colère. Oui, vous le sentez au ton de ma voix. Parce que vous savez, moi, je croyais que ça allait ruisseler. Quand on donne des milliards d'euros à des entreprises, on espère qu'ils distribueront au moins des dizaines d'euros de centimes à leurs employés. Eh bien, savez-vous que même pas.
Bah, c'est un peu naïf,
même
hein, franchement.
Et sur ce point, il n'y a pas de débat.
Mais quelle naïveté, franchement, monsieur le ministre. Vous êtes vraiment surpris de les voir quitter Béthune.
Écoutez, sincèrement, pas plus que ça, parce que personne ne peut être surpris de voir quiconque quitter Béthune. La seule raison pour laquelle ils font des pneus à Béthune, c'est pour permettre aux gens de sortir de Béthune plus rapidement.
Merci, monsieur le ministre. À bientôt. Nicolas Sarkozy s'en est encore pris aux écologistes. Invité à une conférence, il a profité de sa tribune pour se moquer des écologistes qui sont, selon lui, ceux qui défendent les crapauds à poils jaunes et poils bleus et qui sont contre tout ce qui est moderne. Bonjour, monsieur Sarkozy.
Bonjour, Mme Gélé. Bonjour. Merci de m'accueillir, M. Béillard, M. Mamet, M. Cabral. Écoutez, tutti quanti. Écoutez-moi. Que j'entends-je? Je fais une critique hier et maintenant aujourd'hui, assez de bon ton, assez malin. On critique ma critique. Non, mais franchement, je me pose la question. Mais décidément, dans ce pays, on ne peut plus rien dire. Déjà qu'on n'a plus le droit de liser tranquillement le merveilleux roman d'Agatha Christie, Les 10 petits singes. Et maintenant, on ne peut plus dire que les écolos sont ceux qui défendent les crapauds et voudraient qu'on soit reviendu. Voulez quoi? Qu'on soit reviendu à la préhistoire?
Mais
c'est ça?
Non, mais non.
Ah, c'est
mais...
sûr qu'il y en avait des crapauds à la préhistoire.
Mais ils ne vont pas nous renvoyer à l'âge de pierre.
Vous pouvez témoigner, Mme
mais
Julie.
Franchement, on ne va pas faire ça tous les jours non plus. Hein. qu'est-ce que je voulais dire?
C'est ligne 4, page 7, alinéa 3.
Ils ne vont pas nous renvoyer à l'âge de pierre, les écolos. Qu'est-ce que vous racontez?
Écoutez, ils ne vont pas nous renvoyer à l'âge de pierre. Mais qui veulent nous renvoyer à l'âge de Pierre, Paul ou Jacques? Ça ne change rien.
Oh là là.
Oui, bon, une bonne vanne dans une chronique de 10 minutes, ça ne se refuse pas. Hein. Un petit jeu de mots. Écoutez, non, mais à cause des écolos, on n'a plus le droit de manger de quoi? On n'a plus le droit de manger un steak de rhinocéros blanc dans son 4x4 avec le moteur qui tourne. Mais où va-t-on? Moi, je vous le dis, M. Mohamed, droit dans les yeux, on nous enlève nos libertés.
Monsieur Sarkozy, la défense de l'environnement, c'est pas juste la défense des petits oiseaux. On vit dans notre environnement. Ben, c'est logique, on en prend soin, quoi.
Et allez, la Mme Julie qui est contaminée. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Mme Julie? Vous avez mangé du Yannick Noah au petit déjeuner, hein? Vous lisez un texte qui a été écrit par Bob Marley ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais les Français sont sensibles à la défense de l'environnement. C'est même la raison du succès des Verts au municipal. Hein, un succès dont vous avez dit qu'il n'était pas un signe de progrès.
Mais non, mais écoutez, le progrès, écoutez, Mme Julie, le progrès, c'est pas de manger bio, de trier ses déchets, d'arrêter d'exploiter des enfants dans des mines de terres rares ou de nettoyer les océans. Hein, mais vous verrez qu'il y a encore des gens qui vont trouver ça très bien.
C'est quand même étonnant. Hein. Vous êtes à l'origine du Grenelle de l'environnement. On vous pensait un petit peu plus écolo, M. Sarkozy.
J'ai toujours été, hein. mais à ma façon. Hein, j'ai recyclé tout un tas d'idées, Mme Le Pen, par exemple. C'est ma façon de recycler, ma façon à moi de promouvoir les circuits courts. Bon. Voilà, vous m'avez compris? Je vous laisse les babacoules. Hein, okay. Moi, j'ai un jet privé qui m'attend pour aller chez Carla au Cap Singe. Oui, ben on n'a plus le droit de rien dire. Il faut réviser sa géographie.
Ah bah, du coup, on vous
faut l'amender.
Allez, merci, M. Sarkozy. Et puis, un petit mot avant de nous quitter de notre ami Jean-Pierre Pernaut qui a annoncé qu'il allait quitter le Trésor de TF1.
Eh oui, ma chère Julie, bonjour à tous. À 70 ans, je crois que j'avais le droit à une retraite bien méritée.
Mais oui, vous allez pouvoir enfin vous balader dans les petits villages que vous aimez tant. Hein, dont vous
petits villages que j'aime tant. Mais ça va pas? Non, mais ça, jamais de la vie. Ça fait 30 ans. 30 ans, vous m'entendez, que je m'emmerde à parler des villages de Razon-le-Dindon, hein, de Gratouilly sur les Croûtes, des habitants de Bouzillon-la-Crémière, de Tougrasse et de Glavio et de Bourg-les-Rouquines. J'en ai ras le melon. Je veux me barrer à Ibiza ou Las Vegas au choix.
Bon, mais calmez-vous, Jean-Pierre.
Je veux rouler en Maserati orange à Mykonos, plonger dans une piscine de champagne à Barbella. J'en ai plein le derge du rural. Laissez-moi, putain, kiffer ma race. Salut les bouseux.